On va continuer à faire des selfies dans le studio, qu'est-ce que t'en penses?
Eh bien, merci énormément. Vive la France libre.
Une révolution humaine.
L'invité de 11h et quelques. Guillaume Herbault est né un 1er décembre 1970 et naître en début de décennie a peut-être influé sur l'attention particulière qu'il porte à la marche du monde et surtout ses conséquences sur les humains et humaines qui les subissent ou qui en sont les acteurs et actrices. Guillaume Herbault est photojournaliste, lauréat de nombreux prix et présent à Valence ce jeudi 21 octobre, pour le vernissage de l'exposition Orage présentée au CPA jusqu'au 13 mars 2022. Bonjour Guillaume et bienvenue.
Merci, bonjour.
Alors Guillaume, tu es, tu es curieux du monde et de l'actualité. Tu es comme un photographe, tu es le regard. Tu nous proposes un regard sur ce monde. Est-ce que le petit Guillaume était déjà intéressé par la marche du monde, par les actualités, par les informations, comme on disait quand on était plus jeune.
Écoute, est-ce que j'étais curieux quand j'étais enfant? Je crois que j'étais très curieux. Je sais que la radio était tout le temps allumée, enfin beaucoup allumée, et que quand on déjeunait le midi, il y avait les informations derrière, en arrière-plan, qu'on écoutait. Donc oui. Et puis il y avait surtout la vue de ma fenêtre qui était intéressante pour moi parce que j'étais au 19e étage d'un immeuble en banlieue parisienne au bord de l'autoroute et de ma fenêtre en fait je voyais toute la banlieue et surtout des zones industrielles qui étaient en train de disparaître au fur et à mesure petit à petit en étant fermées pour certaines usines ou alors en étant réformées ou détruites pour créer des bureaux ou des nouveaux logements et moi en fait ce que j'aimais c'était de découvrir, de chercher des nouveaux lieux. Et donc avec mes copains de quartier ou d'école, on allait dans les friches pour jouer et s'amuser. Et ce paysage-là, je l'ai toujours en moi. Et quand je vais, par exemple, au bout du monde et que je me retrouve, par exemple, en Ukraine, eh bien, en fait, ce sont les paysages de mon enfance qui reviennent.
Et une similitude et une parenté entre ces différentes évolutions du paysage. Je ne parle pas nécessairement des humains. Là,
pour le oui, le paysage, il y a une parenté entre le paysage de mon enfance et le paysage que je cherche encore aujourd'hui.
Alors quand tu dis vous amusiez, vous exploriez ces friches avec tes camarades, est-ce que déjà il y avait le regard? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait un appareil photo dans la maison? Est-ce que le petit Guillaume avait un appareil photo qui l'embarquait? Ou est-ce qu'il avait ses regards, justement? Quand tu parles de fenêtre, c'est vrai que quand on est gamin, qu'on regarde à sa fenêtre, on a déjà un cadre. Est-ce qu'il y avait déjà ça?
Non, il n'y avait pas vraiment ça, hormis à l'âge de 11 ans, mais peut-être que oui, en fait. À l'âge de 11 ans, j'étais tombé sur un livre photo qui était un livre photo technique dans la bibliothèque municipale. Et il y avait une photo de Jacques-Henri Lartigue qui représentait une femme dans les noirs et blancs qui était saisie dans le mouvement en train de sauter par-dessus un escalier. Et moi, j'avais été frappé par cette image. Et je sais que quand j'étais revenu de la bibliothèque, j'étais monté chez mes parents et j'avais dit « Passez-moi votre appareil photo qui était un petit Instamatic Kodak avec une pellicule à l'intérieur en noir et blanc avec 10 vues, je crois, format carré. » Et là, j'ai fait mes premières photos dans la semaine. J'ai fait développer les films. Et en regardant les photos, en fait, je m'étais dit, mais c'est vraiment nul ce que j'ai fait. Et donc, j'ai arrêté la photo.
Nul pourquoi?
Je trouvais pas. Moi, pour moi, en fait, j'avais compris un truc. J'avais compris que la photo, elle arrêtait le temps, elle arrêtait le mouvement. Mmh. Et c'est ce que je recherchais. Et là, je l'avais pas trouvé. Et puis photographiquement, c'est vrai que c'était pas génial. Mais ça voulait dire aussi que j'étais déjà déterminé qu'en fait j'avais déjà un regard que j'arrivais pas à trouver, mais j'avais déjà quelque chose en moi qui m'amenait à la photographie.
Et donc c'est le mouvement qui a fait. C'est au départ, en tous les cas, ça a été le mouvement qui a.
Mais c'est l'arrêt du mouvement, c'est l'arrêt du temps plutôt, l'arrêt du temps. Et ouais, l'arrêt du temps.
Le temps suspendu. Donc Pas spécialement de photos dans la famille.
J'avais une grand-mère qui faisait beaucoup de photos, mais quand je l'ai connue, elle faisait plus de photos. Mais ma mère m'avait montré ses photos des années 30, 40, 50. Et elle était très moderne parce qu'elle avait déjà un appareil photo. C'était cher quand même de faire de la photo. Elle travaillait en film, mais avant, elle travaillait avec du verre hein, sur lequel il y avait du produit chimique pour faire la photo. Donc, je pense quand même qu'il y avait, l'air de rien, une culture photographique, même si on...
Il y avait un regard, en tous les cas, qui se baladait.
Qui se baladait quelque part, oui. Voilà.
Oui. Dans la famille, je disais que tu es curieux du monde. Et est-ce que dans la famille, il y avait une conscience politique? Est-ce qu'il y avait de l'humanisme déjà? Toi, tu as été élevé là-dedans ou pas du tout?
Moi, je sais pas. Il y avait une conscience politique, c'est un peu fort. Il y avait un goût de la liberté. Mm-hmm. Moi, je dis souvent, même si mes parents s'en sont pas rendus compte, mais mon père est plus là, mais ma mère, je lui dis, en fait, tu m'as appris la liberté. Alors, elle s'en est pas rendue compte, mais la notion de liberté, la notion de faire ce qu'on a envie, de choisir son chemin. Enfin, c'est un peu cliché ce que je raconte, hein, mais sa voix, et de me donner la liberté, en fait, de pouvoir me donner le choix, en fait, me dire, ok, tu veux aller dans cette direction, bah vas-y. Bon, bah ça, c'est mes parents qui me l'ont appris.
Mmh. La liberté, c'est le choix.
C'est de pouvoir choisir.
Ouais, ça c'est. Et est-ce que ça reste pour toi une définition, en tous les cas, fondamentale, finalement, de la liberté, de pouvoir choisir?
Bah oui, et puis en plus, moi, mon travail, il est lié. Mon travail, le photographe, alors peut-être que c'est pour ça que ça fait toujours rêver le monde, le métier de photographe, c'est qu'on a l'impression quand même d'être encore un peu libre. Dans notre société, on choisit quand on cadre, on choisit nos reportages, nos séries, on choisit la manière de travailler, on peut dire encore non. Et alors après, il y a le prix de la liberté, c'est la précarité.
Oui. Mais parce que quand tu dis on peut dire encore non, à la limite, beaucoup de gens pourraient dire encore non. Si ce n'est qu'il y a des réalités économiques.
Il y a des réalités économiques, mais on peut encore, nous, se dire, on dit non en payant le prix derrière. Mais comme on a, enfin, moi, je me dis, je défends d'abord un regard et une manière d'aborder le monde, donc je me donne la possibilité de dire non.
Le photojournalisme, c'est une discipline particulière dans le vaste monde de la photo, et chacune a sa patte, sa personnalité, sa signature. La tienne est singulière, frontale, voire parfois brutale, et pourtant extrêmement travaillée. Pour certains, sur certains clichés, sur certaines séries, il y a une mise en scène qui est faite, en tous les cas qui est ressentie. Est-ce que c'est une manière de tenir à distance cette brutalité, finalement?
J'appellerais ça de la pudeur, en fait, par rapport à l'événement et par rapport aux gens que je photographie. Moi, je suis plutôt, d'ailleurs, je suis très pudique, je suis timide, et donc j'ai un rapport au monde qui est un peu distancié, même si je suis pleinement à l'intérieur. Donc quand je photographie, j'essaie de protéger les gens que je photographie, et après j'ai un positionnement. D'ailleurs, c'est pratiquement, qu'est-ce que la photographie? C'est savoir se positionner dans le monde. Donc là, en ce moment, on est autour d'une table, et bien on se positionne d'une certaine manière, et quand je cadre, en fait, je me positionne par rapport à l'objet photographié ou la personne photographiée, et donc j'ai un rapport au monde qui est où j'essaie de mettre un peu de distance, essayer de mettre du contexte à l'intérieur de l'image pour créer du sens et de ne pas donner des réponses simples à des situations qui sont compliquées. Donc j'aime beaucoup créer l'ambiguïté dans la représentation. Et alors parfois, alors il y a toute une partie du travail qui est exposée où il y a une mise en scène, mais plutôt dans les portraits, mais c'est une partie de mon travail. Mais il y a aujourd'hui une manière de photographier où on a l'impression qu'il y a une mise en scène alors qu'il n'y a pas de mise en scène.
Alors effectivement, on va dire que quand on vient voir l'expo, puisque l'expo Orage est à voir, je le rappelle, jusqu'au 13 mars 2022, venez la voir parce que c'est une grande claque et ça fait un bien fou. Quand on est face, par exemple sur Tchernobyl, où on a effectivement des portraits mis en scène, on a très très belles, des choses très fortes, et quand on part sur la 5e République, où là, tu parlais tout à l'heure d'être pleinement à l'intérieur, il y a un engagement physique, où là tu es sur les manifestations, où là Bien évidemment, ça n'est pas mis en scène, entre guillemets, même si on a le, il y a le travail, il y a le regard du photographe, c'est ce qui fait aussi cette particularité.
Oui.
Mais là, tu es physiquement,
Je suis au contact tout en ayant une distance, mais je suis au contact depuis toujours dans la photographie. Tous mes sujets que j'ai pu faire depuis le début, c'est être en contact avec une réalité et être en contact avec la violence du monde et de montrer ça, en fait, de faire réagir le spectateur d'une manière très douce. En fait, tu parlais tout à l'heure de la mise en scène, c'est plutôt de la manière de cadrer et mon rapport au monde. Et en fait, j'ai un abord plutôt doux. Mais ce que je vais raconter va être ultra violent. Et je joue sur ces deux registres pour que, justement, quand je montre la violence n'arrive pas d'un coup sec. Parce que, en fait, quand elle arrive d'une manière totalement brutale et totalement et sans filtre, eh bien,
elle déshumanise,
elle détourne le regard du spectateur, ou alors elle rentre dans la tête des gens et ça devient quelque chose qui est totalement habituel. Et moi, je veux que la violence, ça soit toujours quelque chose qui dérange, qui nous pose des questions et qui nous fasse réagir pour essayer de changer les choses après.
Tu parles de violence, effectivement, cette violence, elle est au cœur de tout ton travail, enfin, en tous les cas, du travail qui est exposé ici. Des violences, voilà, qui sont multiples, diverses et variées. On commence par Tchernobyl. Tchernobyl, tu écris qu'en 2001, Tchernobyl te fait passer du noir et blanc à la couleur et du mouvement à la frontalité, et donc passer presque du reportage au documentaire. Et qu'en 2009, puisque tu vas y retourner, tu perçois la réalité comme une matière dans laquelle on peut presque se noyer. Ces deux voyages à Tchernobyl, ils ont été fondamentaux pour toi?
Oui, il y en a d'autres, Tchernobyl, c'est un marqueur dans mon parcours.
C'est ce qu'on ressent.
Ouais. Il y a un avant et un après Tchernobyl, il y a une manière d'aborder le monde, il y a un rapport à la réalité, plus que la réalité à Tchernobyl, c'est la radioactivité, plus que ce qu'on est en train de voir. Tchernobyl, c'est un décor dans lequel, en fait, on peut raconter plein d'histoires, puisque quand on est avec ce décor de Tchernobyl, toutes les histoires prennent une force extraordinaire. Et c'est un rapport à la mort, à la fin du monde, à l'errance, à la déshérence, à la solitude. En fait, c'est un rapport à soi-même quand on va à Tchernobyl. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, il n'y a pas que moi, hein, qui suis parti à Tchernobyl, et heureusement, mais je crois que chacun, on en a fait notre propre expérience. Et donc, il y a autant de regards sur Tchernobyl qu'il y a de gens qui sont allés à Tchernobyl. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais oui, c'est un marqueur, et c'est vrai que à chaque fois, ça a été des chocs et des manières d'aborder le monde. Donc voilà, et quand je parle de me noyer dans la réalité, c'est vrai que moi j'essaie, quand je travaille, de rentrer dans une sorte de transe photographique où je m'oublie et en fait je suis complètement dans l'événement. Mmh. Et donc l'histoire prend le dessus sur moi. Et donc à Tchernobyl, dans le dernier voyage qui s'appelle La Zone, j'ai passé plusieurs mois à l'intérieur et à côté, on avait loué un appartement avec le journaliste Bruno Mazzi avec qui on a fait ce projet La Zone. Et en fait on a vu au rythme de La Zone. Et on était vraiment dans un moment très étrange où la réalité et la fiction étaient en train de se mélanger.
Alors tu réponds à une de mes questions, c'était effectivement quand on travaille sur Tchernobyl, combien de temps on y passe? Donc là c'est plusieurs mois, tu dis?
Oui, plusieurs mois, oui. Plusieurs mois éclatés. Hein. Mm-hmm. Je vais pas faire 6 mois d'un coup, mais c'était un mois en février, un mois en mars.
D'accord, et voilà. Tu reviens.
Mais j'y vais chaque année. Enfin, j'y vais pas chaque année, mais j'y étais encore en avril dernier.
D'accord. Pour toi, c'est un besoin de retourner justement pour voir comment les choses évoluent, pour être toi-même du coup le marqueur finalement de cette évolution?
Ben, j'aime bien voir, moi quand je fais un sujet, quel qu'il soit, il n'y a pas que Tchernobyl, j'aime bien voir comment les choses évoluent parce que je photographie un moment. Mm-hmm. Mais il y a l'avant et l'après. Et les choses changent. Et je pense que la réalité, elle est multiple et elle est compliquée. Et donc je me dis à chaque fois, est-ce que je me suis trompé? Et donc je retourne pour voir si je me suis trompé. Et puis j'aime bien revoir des gens ou de voir comment s'ils sont encore là, s'ils sont partis. Même si je ne les photographie pas, en fait j'aime bien avoir des nouvelles. Et pour Tchernobyl, j'aime bien. Moi, c'est un lieu que j'aime beaucoup. Alors c'est curieux de dire ça parce que c'est un lieu qu'on.
C'est pas vraiment le lieu de villégiature auquel on y est. Voilà.
Mais moi, je me sens bien là-bas. Je trouve que les paysages sont magnifiques et j'aime beaucoup les gens là-bas. Et puis, je connais très bien la zone, donc en fait, j'ai mes repères. Et donc, j'aime y aller juste pour moi. Donc, il y a une ville que j'aime beaucoup, qui n'est pas Pripyat, parce que c'est devenu un lieu très touristique aujourd'hui. Il y a une autre ville qui est un peu un mini Pripyat, donc une ville fantôme. Et j'y vais tous les 2-3 ans, juste pour moi.
Quand les photojournalistes travaillent généralement avec les gens les fixeurs, voilà.
Ouais.
Est-ce que toi tu travailles de la même manière et notamment sur Tchernobyl, peut-être au début et puis du coup, mais comme tu y retournes, tu n'as plus.
Je travaille toujours avec des fixeurs parce que c'est ils m'aident énormément sur le terrain, ils me traduisent. Tout le temps, ils préparent le terrain. Et puis, parfois, quand je connais pas bien, ils arrivent à me donner à me décrypter, en fait, les choses. Et puis, pour la plupart, pratiquement tous, on devient amis. Donc, c'est des compagnons de voyage importants pour moi. et voilà, c'est, enfin, sans eux, je ne ferais pas de, enfin, je ne serais pas aussi, j'irais pas aussi loin dans les, dans mes travaux photos. Donc, à Tchernobyl, au départ, je travaillais avec plusieurs interprètes, qui changeaient selon leurs emplois du temps. Et puis, depuis quelques temps, en fait, je travaille en Ukraine avec un fixeur avec qui je couvre, la zone de guerre et Tchernobyl, qui s'appelle Vadim, qui est devenu un ami, on est assez proches, et qui j'ai fait exposer l'année dernière au prix Bayeux du photojournal, enfin de la photographie du reportage de guerre, pardon, où j'ai présenté son travail puisqu'il a une démarche aussi artistique. Et donc là, j'inversais les rôles, en fait, je devenais le fixeur de mon fixeur en France pour présenter son travail.
C'est des belles histoires humaines, ça aussi.
Ouais. Ouais, c'est génial. Ouais.
Et là, ça prend du sens, tout ça prend beaucoup de sens. On a parlé de Tchernobyl, il n'y a pas que Tchernobyl. Tu as évoqué la violence, c'est vraiment ce que tu veux montrer, c'est vraiment ce que tu veux démontrer et peut-être démonter aussi. La violence, sous, encore une fois, sous différentes zones. Tu as parlé de l'Ukraine, donc un théâtre de guerre. On a aussi Fukushima. On a Nagasaki. Des lieux qui sont pas, voilà, c'est pas anodin. C'est pas anodin d'aller là-bas. C'est pas anodin de rendre des images des humains. Pas seulement, voilà, il y a aussi les paysages, mais les humains qui ont subi ou qui ont été encore une fois acteurs et actrices ou qui le sont. Quand tu reviens, donc ça c'est sur l'étranger, quand tu reviens sur la France, c'est une autre forme de violence que tu explores. Est-ce que pour toi c'était nécessaire de justement peut-être de faire un peu un pas de côté par rapport à ces grands événements entre guillemets?
Depuis moi le début de ma carrière, j'ai un travail, je travaille aussi en France par alternance. Donc au tout début, j'ai travaillé énormément chez nous là, enfin à Paris ou en dehors, ou voilà, j'ai travaillé beaucoup sur la société française, la crise dans les banlieues, les événements politiques, voilà. Et puis après, je me suis vraiment plongé dans l'international, mais en ayant toujours des moments où je retournais sur l'environnement français et pour voir ce qu'est mon pays. Et voilà, donc j'ai fait plusieurs comme ça, plusieurs rendez-vous, et tout le temps lié quand même aux élections présidentielles pour la plupart des reportages. Donc par exemple en 2002, j'avais fait pour Libération la campagne de Lionel Jospin, qui était l'échec de la campagne de Lionel Jospin et l'arrivée au deuxième tour pour la première fois de Jean-Marie Le Pen. Mmh. Et donc cette manière, j'avais photographié l'échec de la campagne. Parce que moi, je fais de cadeaux à personne quand je photographie les hommes politiques. Je suis pas là pour. Mon travail, c'est de, en tant que photographe, quand je couvre la politique, c'est de démonter les systèmes de communication. Et donc, alors que je travaillais pour Libération, qui était plutôt un journal de gauche, en fait, j'étais confronté à un service de communication du Parti Socialiste qui était juste complètement à côté de la plaque et qui a amené, entre autres, à l'échec d'une campagne où le candidat était loin de toute, loin de la population, toute la réalité,
tout
où le candidat se déplaçait avec un décor qu'on transportait et qu'on posait dans chaque lieu, alors qu'il allait dans des lieux populaires, mais en fait, à chaque fois, on voyait à l'image toujours un fond rouge avec un slogan, mais on voyait pas le lieu où il était, où on nous disait quand et où photographier, de quelle manière. Et moi, je me souviens que l'attaché de presse dédié au photographe parfois me tirait la jambe pour m'empêcher de photographier. Et donc en réaction, j'ai commencé à me dire, et j'avais pas accès au candidat en plus parce que j'étais pas assez accrédité pour être proche de lui. Donc je m'étais dit, ok, vous voulez pas que je photographie la campagne, eh bien je vais me retourner et je vais photographier le hors-champ de la campagne. Et je vais plus m'intéresser au candidat, je peux pas l'approcher, donc je vais l'intégrer à chaque fois dans un paysage et je vais montrer par contre tout le système autour de lui et ce qui l'encadre et ce qui l'empêche d'être en contact. Et j'ai raconté ça. Et à la fin, en fait, au bout d'un mois, on a commencé à regarder les photos et on était un peu effaré parce que j'étais en train de parler d'un échec. Mmh. Et donc, dramatique, mais voilà, d'un échec. Ouais. Et c'est ce que j'ai un peu fait, en fait, en travaillant sur la Ve République qui est présentée là. C'est que moi, je revenais, donc je partais. Là, j'étais vraiment dans un cycle pareil de séries de reportages à l'étranger. Et le confinement est arrivé. Et j'ai été bloqué, comme tout le monde, comme tous les Français. Enfin, comme tout le monde chez moi, sans pouvoir bouger. Et je voulais pas non plus abuser de mon statut, parce que j'ai la carte de presse, et je voulais pas abuser de ce statut pour aller où je voulais. Je m'étais dit, moi, je suis un citoyen comme tout le monde, donc si j'ai pas de commande, je ne sors pas, et je reste chez moi, et voilà, j'ai pas besoin de rajouter des problèmes à ma famille, et puis, et aux hôpitaux, etc. Donc voilà. Et donc, au bout de 3 mois, je crois, ça a duré 3 mois, hein, je suis sorti. Et j'avais plus aucune idée et j'étais complètement vidé. Et je me suis dit, je vais refaire ma gymnastique de photographe. C'est-à-dire, je vais faire les petites manifestations, les petits événements à côté de chez moi. Donc j'habite en région parisienne. Je vais refaire la sortie des ministres, comme je pouvais faire quand j'avais 20 ans. L'Assemblée nationale, le Sénat, le président de la République à l'Élysée qui accueille les présidents, et je vais refotographier tous ces moments. Alors, dans un objectif de gymnastique, parce que, en fait, faire de la photo, c'est de la gymnastique, il faut toujours aiguiser l'œil, et c'est un truc physique, on doit tout le temps bouger, et toujours être vif, donc c'est de l'entraînement. Et la deuxième chose, c'est, j'avais envie de sentir un peu la rue. Parce qu'on, quand même, avant le confinement, on sortait de 2 ans de crise symbolisée par les gilets jaunes, qui était une crise quand même majeure et qui avait été qu'on avait vu disparaître avec le confinement. Et je m'étais dit, mais où est passée cette colère? Et voilà. Je le faisais que pour moi, pas du tout dans un objectif de faire de la photo pour montrer aux journaux ou pour être exposé et tout. Et en fait, ça m'a donné une liberté incroyable, puisque j'avais pas un gramme de travail. J'avais plus rien, j'avais plus de commandes, plus rien. Je savais pas comment je pouvais faire pour continuer à vivre de mon métier, mais j'y allais juste comme ça. Et donc, en fait, en n'ayant aucun objectif de vente, j'arrivais avec une distance totale sur l'événement et une distance doublée par le fait que pendant des mois et des mois et des années, j'avais travaillé beaucoup plus à l'étranger. Donc en fait, j'avais presque un regard vierge sur mon environnement proche. Et au bout d'un mois, j'ai commencé à éditer mes photos de la même manière qu'avec Jospin. Et là, je me suis rendu compte que j'étais en train de parler de quelque chose qui était autour de la représentation de la République aujourd'hui, donc de la Ve République. Mmh. Et je me suis dit, je vais continuer ce travail et je vais chercher les symboles. Que reste-t-il? Où sont les symboles de la Ve République aujourd'hui? Et de travailler sur le choc des symboles, donc du côté du pouvoir, mais du côté aussi de la crise sociale qui est là.
tout à l'heure quand tu parlais de la campagne de Jospin, le mot désincarnation m'est venu et c'est vraiment, est-ce qu'il y a ça aussi, c'est cette incarnation de, parce que le photographe donne à voir, mais il donne à voir. Tu as parlé de chair aussi tout à l'heure, on a parlé d'engagement physique, parce qu'il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose de très, physique, de c'est la chair, très incarnée dans les photos que tu.
Mais je cherche la matière. Pour moi, la photographie, c'est de la matière. C'est comme de la sculpture ou de la peinture. Et je cherche cette matière. Donc, la matière, elle peut être humaine ou elle peut être dans le paysage. Et donc, j'ai besoin d'être au contact. Et donc, c'est une manière d'être, en fait.
Bah, ça se ressent, en tous les cas. Tu fais partie de l'agence Vue. C'est oui. une référence, on va dire. Aujourd'hui, là, à l'instant T, 2021, on ne sait pas trop ce qui va se passer, on ne sait pas trop, on est dans une espèce d'entre-deux qui n'est pas confortable du tout pour personne, je crois. Toi, ton travail de photographe, il va vers où aujourd'hui? Est-ce qu'il te porte à continuer justement cette campagne que tu vas peut-être faire ou pas, je ne sais pas, ça c'est. Est-ce que tu as une commande ou pas? Ou est-ce que toi, en tant que. Humain, de ton travail personnel de photographe, vers quoi il va te mener?
Ben en fait, il va être dans plein de directions différentes. Il y a la campagne présidentielle qui m'intéresse énormément. Je pense que ça va être une année charnière, comme tu le dis. Et donc j'ai envie de la voir et de la photographier. Et là, je suis en train de chercher des financements pour le faire parce que ça coûte cher. Et puis à côté, je vais continuer mon travail en Ukraine. Je pars en novembre sur la ligne de front en Ukraine avec Philippe Bro, qui est photographe et réalisateur, qui est aussi à l'agence Vue et qui va faire un court-métrage autour de mon travail là-bas. Donc on va partir ensemble, il va me filmer et moi, je vais pouvoir continuer mon travail.
Parce que justement, ouais, quand tu pars comme ça, ce sont des commandes.
C'est des commandes provoquées. Donc je vais voir les journaux ou des institutions et je vais leur proposer des projets qu'ils vont financer. Et puis il y a d'autres projets qui arrivent, mais je peux pas trop en parler. Mais voilà.
Laissons-les en suspens et on aura l'occasion de les voir. Cet entretien est enregistré pour une fois. Voilà, d'habitude c'est en direct. Là on est en enregistrement. On est d'ailleurs dans la salle où est présenté. Une autre facette du travail que tu as fait avec le CPA, enfin via le CPA et pas que, où tu as fait un travail d'accompagnement des citoyens, enfin en tous les cas de gens de Valence et de c'est pas Saint-Étienne, c'est
Givors,
voilà. Toi, dans ce genre de rencontre avec justement ces gens. C'est gens qui ne sont pas des photographes professionnels, qui donnent un autre regard. Qu'est-ce que tu trouves là-dedans? Qu'est-ce que toi, tu en retires?
Moi, mon travail, je pense que le travail de photographe, c'est un travail de passeur. On doit passer quelque chose. Pour moi, la photographie, c'est une écriture. C'est de la littérature. Avec un vocabulaire. Qui est parfois méconnu. Et mon travail, c'est de faire connaître ce vocabulaire. Parce que j'ai l'impression, on est dans une société d'images. Et quand on n'arrive pas à décrypter une image, on est analphabète. Et donc, mon travail, c'est de donner des pistes d'écriture. Et après, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner les gens qui participent aux ateliers dans leur regard et les pousser, en fait, dans quelque chose qu'ils ne peuvent pas imaginer au départ. Donc les pousser dans leur retranchement, mais gentiment, calmement. Mais pour les amener à autre chose et pour aussi les amener à découvrir, à regarder autrement, même autour d'eux. Moi, je pense que tout est intéressant. Il faut juste s'arrêter et commencer à regarder. Mais par exemple, là, je fais des ateliers dans des lycées pro. Donc ça c'était en Bretagne par exemple, c'était il y a 3 ans avant le confinement, et j'avais donc des futurs garagistes et des futurs électriciens, et c'était hyper intéressant de voir que eux ne voyaient les objets que par rapport à leur fonction et pas par rapport à leur forme. Et donc mon travail, ça a été de leur dire regardez les formes, ça raconte quelque chose. Mais à l'inverse, je peux très bien avoir aussi des élèves, j'enseigne aussi dans une école de photojournalisme, qui arrivent qu'avec leurs mots et qui ne voient les choses que par rapport à des mots. Et donc mon travail, c'est d'enlever les mots et de laisser la vue arriver, le regard arriver. Donc j'aime bien jouer avec, travailler avec ce public sur l'image et sur la réflexion. Qu'est-ce qu'une image? Comment elle parle? Comment on peut en faire? Et leur faire comprendre que une image, eh bien, c'est du travail. Ça se construit. Ça arrive pas comme ça en appuyant sur le bouton, quoi. C'est vraiment une manière de, c'est une approche, quoi.
Est-ce que pour toi, justement, le photojournalisme, c'est vraiment quelque chose à part, ou est-ce que être photojournaliste, c'est être avant tout photographe?
Ben, ça dépend comment on se situe. Il y en a qui vont, qu'il y a des photographes qui vont dire, non, des journalistes qui vont dire, je suis d'abord journaliste et après photographe. Et puis il y a des photographes comme moi qui vont dire, je suis photographe et après journaliste. Mais en même temps, j'aime bien les deux, moi. J'aime bien les deux. Non, mais en plus,
est-ce qu'il y a une différence fondamentale?
Non,
entre
mais en fait,
deux,
bah, oui, c'est le rapport au réel. Quand on est photographe, on peut se dire, moi, le rapport au réel, eh bien, je passe au-dessus et donc c'est la photo qui va primer. Moi, je veux toujours que ce que j'aime montrer des choses réelles et jouer avec. Donc, et jouer avec l'idée de la représentation du réel. Donc, c'est le réel qui me porte. Je vis dans une société, donc, et donc j'ai envie de témoigner de cette société et je fais de la photographie pour être témoin du monde. Et ça me permet de, voilà, moi j'ai toujours été complètement concerné par le monde, mais loin, proche, tout. Donc j'ai besoin de la photographie.
Le monde battant. Alors Guillaume, dont voilà, on a fait un montage de cet entretien, et puis je t'avais demandé de proposer deux pauses musicales. Tu as choisi Anis Fram, un extrait de Seize, parce que c'est une longue pièce, donc tout n'est pas diffusé, et Thom Yorke, un extrait d'Anima, On a Way Away. Voilà. Pourquoi? Runway Away, pardon, j'ai mal écrit.
Pourquoi? Parce que c'est de la musique que j'écoute en ce moment et qui, en reportage, en fait, je l'écoute régulièrement en reportage. Voilà, il y a des ambiances très particulières et voilà, c'était.
Donc les images sont aussi parfois un peu. Non pas inspirées de la musique, mais en tous les cas, il y a ce rythme.
Ah ben, la musique, elle est importante pour me concentrer, pour réfléchir. Parfois, j'ai besoin d'écrire pour accompagner mes photos. Donc, je mets une certaine musique pour avoir le rythme dans l'écriture. Elle me porte. Et j'ai besoin de la musique avant de travailler et après pour me reconcentrer, me couper un peu justement du monde, pour revenir en moi et après revenir.
Pouvoir repartir. Merci beaucoup Guillaume d'avoir pris ce temps.
Merci.
Et puis on attend avec impatience, j'irai presque gourmandise les prochaines. Mais d'ici là, venez au CPA, venez voir ces expositions, puisqu'il y a quand même plusieurs choses. C'est une plongée dans l'humanité, dans, pas forcément dans ce qu'elle a de plus beau, mais même ce qu'elle a de pire peut parfois être beau, je ne sais pas, mais en tous les cas très très humain et très, qui touche énormément. Je pense notamment à cette dame aux formes généreuses dont tu as fait des portraits absolument magnifiques qui coupe dans ce Tchernobyl difficile. Merci.
Merci.
On va continuer à faire des selfies dans le studio. Qu'est-ce que t'en penses?
Eh bien, merci énormément. Vive la France libre.
Une révolution humaine.
L'invité de 11h et quelques. Thank you.